Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïca 90.2 FM que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaica.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui la pianiste Momo Kodama. Bonjour Momo.
Bonjour.
Alors je résume votre parcours. Vous êtes née à Osaka, mais votre famille déménage en Allemagne alors que vous n'avez que 8 mois. Comme votre sœur aînée, Marie, vous débutez l'apprentissage du piano à 3 ans. Vous suivez la classe de Germaine Mounier, une élève d'Ivnat et de Magda Tagliaferro au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et ensuite avec Murray Peraya, Andra Schiff, Vera Gornostaeva et Tatiana Nikolaeva. Vous remportez votre premier Grand Prix au Concours international d'Épinal en 1987 et êtes la plus jeune lauréate du Concours international de piano de Munich. Vous remportez ensuite le prix international Terence Judd en 1999 et le prix Saji Keizo de la Fondation Suntory en 2011. Depuis, vous vous produisez avec la Philharmonique de Berlin, le Symphonique de Boston, le Symphonique de la NHK, l'Orchestre de la NDR de Hambourg, l'Orchestre Philharmonique de Radio France ou le Philharmonique de Liverpool sous la direction de Seiji Ozawa, Eliyahu Inbal, Roger Norrington, Lawrence Foster, Kent Nagano ou André Prévun. Vous collaborez avec les violonistes Christian Tetzlaff, Renaud Capuçon, Augustin Dumais, Yuzuko Horigome, les violoncellistes Gauthier Capuçon, Steven Isserlist, la pianiste Marie Kodama, votre sœur, et le clarinettiste Jörg Widmann. Je vous propose de débuter notre entretien avec Une barque sur l'océan de Maurice Ravel. Notre invité, Momo Kodama, est au piano.
Thank you.
Une barque sur l'océan de Maurice Ravel. Notre invité, Momo Kodama, était au piano. Il s'agit d'un extrait de son album La Vallée des Cloches, paru chez ECM New Series. Dites-nous, Momo, vous venez d'une famille de musiciens ?
Oui, ma mère était professeure de piano. Ma sœur, donc, qui a 5 ans de plus que moi, est pianiste également. Et mon père n'a rien à voir avec la musique, mais il était très mélomane. Donc oui, il y a beaucoup de pianistes et beaucoup de pianos dans notre maison.
Et alors, quel rôle votre sœur Marie a joué dans votre apprentissage ? Est-ce qu'elle vous a stimulé ?
Oui, 5 ans de différence, quand on est petite, ça fait beaucoup. Elle avait 8 ans quand j'avais 3 ans et jouait tous les morceaux les plus difficiles, les merveilleux. Pour moi, c'était toujours comme un objectif de jouer comme elle. Après, c'est vrai que on commençait à jouer un peu les mêmes œuvres, donc on pouvait plus échanger, mais c'était toujours un rôle modèle pour moi.
Et pour vous, il était clair dès le départ, comme votre mère était professeure de piano, que vous seriez pianiste vous-même ?
Pas du tout, non. C'est quelque chose. Le début était très naturel parce que j'ai commencé à l'âge de 3 ans et je ne me souviens absolument pas du jour où j'ai commencé le piano.
Ah bon ?
Oui, je crois que aussi longtemps que je me souviens, il y avait le piano. Et c'était très naturel, c'était comme quand on apprend à brosser les dents, à se laver le visage le matin. Enfin, c'était un peu dans ce même processus très naturel. J'avais un professeur extraordinaire qui était une étudiante en pédagogie à l'université. Donc moi, j'étais un peu son cobaye. Elle m'a fait faire le piano, elle m'a fait débuter le piano, pas par le solfège, mais avec beaucoup d'imagination. Vraiment, c'était comment produire un son. Elle me faisait faire des staccato avec n'importe quelle note, que c'était une grenouille qui sautait, ou il y avait les deux doigts qui marchaient comme deux jambes sur le piano. Donc c'était vraiment comme un jeu, et ça m'a fait vraiment aimer le piano.
Donc vous n'êtes jamais sentie contrainte ?
Pas du tout. Et après, c'est vrai que vers l'âge de 10 ans, j'ai le choix, et mes parents m'ont toujours dit que si je veux arrêter, je peux arrêter à n'importe quel moment.
Wow.
Et d'autant plus que je faisais beaucoup la danse classique aussi à ce moment-là, donc j'avais aussi le choix d'aller dans cette direction. Mais je n'ai jamais arrêté parce que j'avais toujours les morceaux que j'avais très envie d'apprendre. Et c'était une suite de succession de vouloir découvrir, d'apprendre, et je crois que ça n'a pas vraiment changé cette attitude aujourd'hui.
Alors dites-moi, quel souvenir gardez-vous de votre première apparition en public ?
Alors ça, c'était pour la télévision française à l'âge de 8 ans.
Oh mon Dieu !
Donc c'est pas vraiment public, mais c'est la chose officielle que j'ai faite. Je me souviens que c'était à 9h30 du soir, alors j'avais très sommeil. On venait de l'Allemagne, on habitait l'Allemagne à ce moment-là, on est revenu à Paris. J'ai fait la générique d'une émission qui était consacrée à Alexis Weissenberg. Après, j'ai commencé à faire des concours juniors vers l'âge de 11, 12, 13 ans. Après, j'avais fait des concours pour adultes. Je crois que jusqu'à l'âge de 16, 17 ans, c'était vraiment quelque chose de très naturel. Je n'avais aucun trac. Je préparais vraiment bien. J'avais des professeurs qui étaient aussi très exigeants, sans tétaniser. Je ne sais pas comment
le
dire.
Oui.
Je crois que j'ai beaucoup de chance. Mais c'est vrai que le trac, tout ça, c'est venu plus tard.
C'est venu plus tard.
Oui, c'est arrivé vers 18, 19 ans. Et puis, on se pose plus de questions aussi. Et je pense que le plus qu'on se pose des questions, le plus on a le trac. Et il y a d'autres choses qui se passent. Ce qui n'est pas forcément négatif, mais c'est autre chose.
Oui, évidemment. Ça me semble tout à fait logique. Oui. Alors, je vous propose de poursuivre en vous écoutant, votre sœur et vous, dans la transcription d'Edouard Langer de la mort du cygne du lac des cygnes de Piotr Ilitch Tchaïkovski. la transcription d'Edouard Linger de la mort du cygne du lac des cygnes de Tchaïkovski. Notre invité, Momo Kodama, jouait en duo avec sa sœur Marie Kodama. Alors, vous avez eu le privilège d'étudier auprès de la grande pianiste russe Tatiana Nikolaeva. Que retenez-vous de son enseignement ?
Je retiens une impression très globale en tant que personne et en tant que musicienne. Elle avait un fin de découvrir aussi à n'importe quel âge. Je ne pouvais pas aller étudier à Moscou avec elle parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'échange entre l'Union soviétique à ce moment-là et le Japon. Mais en même temps, elle n'était pas beaucoup à Moscou comme elle jouait vraiment beaucoup en Europe. Donc j'allais la voir au moment où elle avait un peu de temps dans différents pays d'Europe. Et je lui ai donné les programmes. Elle m'a donné vraiment... Ce n'est pas quelqu'un qui vous expliquait sur chaque note, mais elle dit des choses globales qui avaient tellement de... qui ouvraient tellement de portes après que je...
C'était une approche philosophique plutôt de la musique?
C'était une approche philosophique, mais c'était aussi sur le son, sur la façon d'écouter les polyphonies, sur... Et puis après, elle voulait que j'écoute beaucoup de... Elle dit, est-ce que tu as écouté ça, cette interprétation-là? Elle voulait que j'écoute beaucoup de choses, que je lis beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un qui était beaucoup dans la bienveillance aussi. Parce qu'il m'arrivait que j'étais butée contre un mur et que je ne savais pas comment continuer musicalement et... Et elle avait très bien compris aussi ce processus.
Elle arrivait à débloquer.
Elle arrivait à débloquer parce qu'elle me donnait un peu l'espace. Moi, j'étais vraiment la partition au nez, comme on peut imaginer. Elle avait une vue un peu plus globale des choses. Et l'autre chose que j'ai appris avec elle, c'est que quand je faisais des stages, après il y avait des concerts des étudiants, elle venait toujours à la répétition générale. Et elle me disait des choses en fonction de l'acoustique de la salle. Et ça, c'était aussi une chose que elle, c'était surprenant parce que son son qui est tellement extraordinaire, le son de Tatiana Nikolaeva, mais quand on l'écoutait dans une chambre, elle avait un son extraordinaire, mais quand elle était dans une salle de 5000 personnes, elle avait aussi un son extraordinaire, on la sentait près. Et je pense que c'est aussi une façon d'écouter l'acoustique et de s'ajuster en fonction que j'ai énormément appris. Par exemple, quand c'était dans une grande salle, je pensais qu'il fallait que je joue plus fort. Et en même temps, elle disait non, il faut au contraire alléger beaucoup de choses. Aussi, une question de timing, des choses. Après, avec l'expérience... On l'apprend avec les oreilles, avec son s'adaptant. Mais ça, c'est aussi une chose importante qu'elle m'a appris.
Alors, on trouve sur YouTube des masterclass qui sont très enrichissants de vous. Quelle place occupe l'enseignement dans votre activité ?
Pour l'instant, je n'ai pas de classe fixe. Je ne suis pas professeure encore dans une institution, université. Mais de plus en plus, je suis très intéressée par la nouvelle génération. Donc, je suis très heureuse ici à Bruxelles d'écouter, découvrir tous ces jeunes, magnifiques musiciens qui ont toute leur vie devant soi. Parce que je pense que je suis dans une phase d'âge qui a connu les pianistes comme Nikolaeva, qui sont de la génération où il n'y avait pas encore d'ordinateur et de téléphone portable, et où le temps était un peu plus long aussi, peut-être la journée était plus longue, les minutes étaient plus longues. Et la génération maintenant qui sont nées avec le téléphone portable, alors moi je suis un peu entre les deux, et je pense que je suis très heureuse de pouvoir faire un peu le lien aussi de tout ce que les personnes m'ont appris, et que j'ai digéré à ma façon, mélangé avec mon expérience que j'ai pu vivre, en jouant avec des chefs d'orchestre magnifiques, avec des musiciens, violonistes, violoncellistes magnifiques. Je pense qu'il y a quelque chose comme un mélange qui s'est fait et que je peux peut-être... j'ai l'impression que à chaque jeune personne, j'essaie de comprendre ce qui se passe dans leur tête et quelles questions ils se posent. Et si je peux un peu apporter quelque chose, oui, c'est quelque chose que je trouve fascinant. J'adore.
Alors, je propose de vous écouter pour l'instant dans l'Allegro du concerto pour piano et orchestre en La majeure numéro 23, Köchel 488 de Wolfgang Amadeus Mozart. Le Mito Chamber Orchestra qui vous accompagne est placé sous la direction de Seiji Ozawa.
Thank you.
L'Allegro du concerto pour piano et orchestre en la majeure numéro 23, Köchel 488 de Mozart. Notre invité, Momo Kodama, est accompagné du Mito Chamber Orchestra placé sous la direction de Seiji Ozawa. Alors, cette année, vous faites partie du prestigieux jury du concours Reine-Elisabeth. Comment a débuté cette aventure pour vous ?
Elle a débuté il y a un an et demi déjà, parce que je faisais partie de jury qui faisait pas la toute première présélection, mais la présélection d'après, qu'on a écouté énormément de vidéos, de beaucoup, beaucoup de jeunes talents de monde entier. Là, on est à la demi-finale, au milieu de la demi-finale. Je trouve c'est miraculeux que le concours a lieu, parce que je pense que c'était vraiment énormément d'ajustements, parce qu'en plus la situation changeait tout le temps quasiment, donc d'avoir su mettre à pied ce concours, vraiment, je dis bravo parce que c'est merveilleux. Je pense que pour les jeunes, c'est important aussi de retrouver un peu la salle, de jouer devant un public, même si...
Vous trouvez que c'est plus difficile pour eux cette année que les autres années, vu que le public est vraiment pas aussi présent?
J'imagine que pour les jeunes, de jouer maintenant, alors que je suis sûre qu'ils n'ont pas pu aussi toujours avoir des cours réguliers pendant l'année, parce que je sais qu'il y a eu des conservatoires, c'était que vidéo, leçon par vidéo. Et beaucoup de choses qui ont fait qu'on était un peu complètement déstabilisés de beaucoup de choses. Donc, après avoir traversé cette période d'être sur scène, j'admire d'autant plus tous ces jeunes qui sont là et qui jouent et qui sont vraiment, vraiment bien préparés. Je trouve que...
Dites-moi, quelles sont les qualités que vous recherchez chez un candidat ? Qu'est-ce qui vous séduit ? Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce qui vous fait dire, tiens, celui-là, vraiment, il mérite ?
Pour moi, c'est difficile. Je trouve que pour tout le monde, il y a quelque chose. Donc, mais la chose que je trouve vraiment intéressante, quelle façon il a lu la partition, ou elle a lu la partition, et l'assimilé, comment dire ?
La langue du compositeur ?
Oui, de quelle manière il a... assimilé en lui, et après aussi il y a le côté pratique, je veux dire à quel point il arrive à le sortir avec ses 10 doigts, avec ses 2 pieds aussi, parce que la pédale aussi elle est là, et savoir le transmettre. Mais c'est quand même des conditions un peu exceptionnelles, parce que il arrive vraiment sur scène, il faut que ça se fasse ce jour-là, ce moment-là, donc c'est beaucoup de critères qui sont...
Est-ce que l'émotion est aussi très importante ?
L'émotion de...
Qu'il véhicule ? Est-ce que si vous êtes touché par un artiste, mais que sa technique n'est pas transcendante, est-ce que pour vous c'est plus important, ou l'aspect technique est vraiment quelque chose de fondamental ?
L'aspect technique, pour moi, c'est pas juste les notes et pas juste vite et jouer vite et propre. Mais c'est comme vous dites, la façon dont il arrive à... exprimer quelque chose que lui, il pense que c'est ce que Beethoven voulait dire. Et puis, parce qu'il y a des fausses notes qui dérangent moins, et qu'il y a d'autres fausses notes qui sont... On ne peut pas dire que les fausses notes sont au bon endroit ou au mauvais endroit, mais il y a quand même quelque chose... Oui, vous comprenez.
Je comprends, oui.
Donc, oui, je pense que pour moi, c'est plus important, effectivement, parce qu'une fausse note, ça peut arriver. Je veux dire, on est humain. Une défaillance d'une fraction de seconde de concentration, ça peut arriver. Ça, c'est pas... Mais c'est vrai que comment sent le jeune à retraite, oui, c'est pour moi, c'est important. Après, il faut dire aussi que c'est... comment c'est en ce moment. Ça ne veut pas dire que, comme je vous disais, les jeunes, ils ont toute leur vie devant eux. Ils sont, enfin, moi aussi encore, enfin, à n'importe quel âge, on est encore en train d'évoluer, de changer, d'aller vers l'avant. Et ça dépend de chaque musicien soi-même. Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, je pense que le concours, c'est vraiment extraordinaire pour qu'on ait cette chance de jouer, d'être entendu maintenant avec Internet dans le monde entier. Si il y a un bon résultat, c'est extraordinaire parce qu'ils ont d'autres chances qui arrivent après. Si ça marche, peut-être pas, parce que malheureusement, pas tout le monde est en finale. Je pense que c'est très important de prendre ça comme un tremplin pour avancer. Voilà, je pense que de toute façon, c'est une chance extraordinaire.
Alors ce mois-ci, vous nous amenez un nouvel album dont nous allons écouter un extrait. Donc voici une partie de Lotus Under the Moonlight du compositeur japonais Toshio Ozokawa. Le Mito Chamber Orchestra est placé sous la direction de Seiji Ozawa.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. Un extrait de Lotus Under the Moonlight du compositeur japonais Toshio Ozokawa. Notre invitée, la pianiste Momoko Dama, était accompagnée du Mito Chamber Orchestra, placé sous la direction de Seiji Ozawa. Alors, dites-nous Momo, qui est Toshio Ozokawa?
C'est un compositeur japonais qui est né en 1950. Alors là, il ne faut pas que je dise bêtises.
Je peux regarder sa biographie, c'est pas tellement d'importance.
Voilà, prend très à cœur ses racines dans la culture japonaise. Mais donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il prend très à cœur le temps. Le temps de la nature aussi, et l'espace, et les gestes musicaux. Alors, c'est aussi beaucoup dans ce Lotus Under the Moonlight. C'est une image très poétique de la fleur de lotus, qui est une fleur très représentative dans la culture bouddhiste.
Elle représente l'humain, si j'ai bien compris.
Oui, alors il pense que je trouve aussi c'est très, très beau cette image quand la fleur est fermée. Ça ressemble à une main qui est en prière. Et donc, cette lotus qui a les racines dans la boue et qui monte de la surface d'eau et après qui montre leur très beau visage vers la lune. Et donc, et la lune, je pense que là, dans ce contexte-là, ça représente Mozart, ça représente la culture occidentale.
Il y a d'ailleurs une citation de Mozart.
Il y a une citation à la fin, oui. Et cet concerto a été écrit pour les 250 ans de l'anniversaire de Mozart. Et c'est la radio Norddeutsche Rundfunk qui a commandé l'orchestre de la NDR, maintenant qui s'appelle Elbphilharmonie, qui a changé de nom entre-temps, qui l'a commandé. Alors pour lui, c'était il a dit lui-même que c'était une tâche très difficile d'écrire un concerto qui va être joué dans la même soirée que Mozart. Il considère que c'est un génie absolu, Mozart, ce qui est... Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et que c'était une tâche très difficile. Donc, il faut dire que Ozokawa est très modeste aussi. Et il a trouvé cette solution magnifique en s'inclinant. Il dit que c'est l'Occident, c'est l'Orient qui s'incline devant l'Occident. Ça veut dire que c'est Ozokawa qui s'incline devant Mozart. C'est un peu ça l'idée générale. Et cette citation à la fin de mon concerto de Mozart... Le deuxième mouvement de concerto de Mozart en la majeure, quand elle arrive soudain, tout le morceau fait sens. Donc c'est une œuvre en un mouvement, c'est comme une narration.
Oui, et elle est très très belle cette œuvre.
Moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre de 20e siècle. Et entre-temps d'ailleurs, ce qui prouve, c'est que... C'est vrai que moi, je l'ai joué plus que 20 fois. J'ai dû le jouer peut-être 25 fois, quelque chose comme ça. Mais beaucoup d'autres pianistes l'ont joué déjà aussi. Ce qui veut dire que c'est en train de rentrer dans le répertoire.
Et c'est une œuvre qui est difficile à jouer?
Pour moi, toute œuvre est difficile à jouer. Mais qu'est-ce qui est difficile dans cette œuvre? C'est qu'il y a beaucoup de... c'est comme un millefeuille de beaucoup de couches de superposées, très délicatement nuances, avec des nuances très délicates qui vont de triple piano jusqu'à pianissimo, et ressortir cette subtilité de son, oui, pour moi ça c'est difficile. Et aussi, au début, ça commence un peu comme le théâtre No, où le temps est très lent, et donc il faut être patiente au début, il ne faut surtout pas... s'agiter parce que ça perd la magie. Donc pour moi, c'est là la difficulté, mais voilà, c'est comme toute difficulté, ça vaut la peine.
Ça vaut la peine. Oui. Alors dites-nous, de manière générale, est-ce que vous aimez collaborer avec des compositeurs vivants avec lesquels
pour moi, c'est essentiel. Oui. Mais en même temps, je ne fais pas la différence entre Bach et Mozart et Rostropovitch, parce que pour moi, c'est juste la continuité de l'histoire de la musique. C'est pas la musique contemporaine, c'est pas quelque chose à part. Et je pense que les compositeurs de maintenant, ils n'existeraient pas s'il n'y avait pas les compositeurs avant. Et d'ailleurs, tous les compositeurs étaient contemporains de leur époque. Donc moi, je me sens très chanceux de vivre dans la même époque que Hosokawa, que Whitman, et de pouvoir créer ces œuvres qui vont continuer l'histoire de la musique et qui sont tournées vers le futur. Donc oui, c'est dès qu'il y a une possibilité, dès que j'ai la forte envie et le temps aussi, j'essaie de faire des commandes aux compositeurs. Et je trouve que c'est très bien ici au concours d'ailleurs, Reine-Elisabeth, qu'il y a les morceaux contemporains imposés.
Imposés.
Oui.
Alors, bon, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité de partager avec nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire écouter?
Alors, j'ai choisi une invention de Bach par Tatiana Nikolaeva. Voilà, c'est des morceaux qu'on apprend très souvent quand on est enfant, d'une simplicité, parce qu'il n'y a que deux voix, mais c'est d'un résultat tellement réjouissant et à laquelle on revient, enfin moi en tout cas, je reviens très souvent comme revenir à mes sources, revenir à mes bases. Et on comprend aussi que c'est ça qui a fait Mozart, Chopin, après, voilà. Donc c'est revenir aux origines un peu.
On l'écoute maintenant. C'était donc la 8e invention en mi majeur, dont le numéro de catalogue est le 779, par Tatiana Nikolaeva. Il s'agissait du choix de notre invité Momo Kodama. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup, Momo Kodama, d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Merci à Ilaï Rehan d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïca les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Thank you.